Si vous voulez venir avec moi dans Ésaïe 54, je crois que... Ah, attends, je ne l'ai pas... Ouais, là, je sais, ça il me fait des simagrées. OK, là, ça devrait marcher. Oui? Ésaïe 54. On va lire les 10 premiers versets. Ben, en fait, c'est notre texte. C'est la moitié, à peu près, un peu plus que la moitié du chapitre. J'aimerais ça les lire avec vous ensemble. Se rafraîchir un peu le cœur de ces vérités merveilleuses. On les a lues tantôt avant la prière. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure demain de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ah Seigneur, quel beau texte! Merci pour les vérités d'espérance, de rédemption. Et Seigneur, que ces vérités se logent dans nos cœurs bien ancrés, et que, Seigneur, elles fassent aussi tout leur effet que toi, Seigneur, tu désires dans chacune des vies individuelles, mais aussi pour notre Église, alors qu'on avance, Seigneur, avec toi par la foi. Et merci que dans ces vérités qu'on voit, il y en a autant pour le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés que pour, Seigneur, la croissance de tes enfants dans ta grâce. Merci pour la suffisance de cette grâce, la toute-puissance de cette grâce qui sauve, encore aujourd'hui, en cette journée, Seigneur, tu sauves tous ceux qui s'approchent de toi par la foi. Et merci que tu délivres aussi ton propre peuple, tes enfants rachetés, de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Pour ça, Seigneur, qu'on commence en venant à toi, parce qu'on est conscient que c'est toi, Seigneur, qui fais le vrai travail, qui convainc, qui réconforte, qui reprend, qui fait tout, Seigneur, que tu as voulu faire, Seigneur, à travers ces vérités qu'on considère aujourd'hui. Donc, on s'ouvre à toi, Seigneur. On se soumet à toi pour ce que tu as. Au nom de Jésus. Amen. Un nouveau mariage fructueux. Et vous savez, je commence à avoir un peu l'habitude avec les thématiques. Ça va être un peu différent l'année prochaine parce qu'on ne sera pas dans des messages thématiques. On va passer à travers l'évangile de Jean, du voulant. C'est ce qu'on va faire. Mais on est dans des thèmes hein, pour chacun des mois, toujours avec le grand thème du mois de transformer à l'image de Christ, mais on commence le thème du nouveau mariage au mois de novembre. Et je vais vous expliquer un peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, parce que j'ai déjà le topo pour ce que nous allons voir ensemble. On va considérer, avec les trois messages qu'on va avoir, le nouveau mariage dans la perspective de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, on est dans Ésaïe. Et on voit le mariage fructueux, c'est-à-dire le fruit abondant de la croix de Christ. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va être dans Osée avec un mariage merveilleux. la délivrance puissante de la croix. Et on va terminer ça avec un message dans l'Apocalypse, avec un mariage glorieux, la gloire débordante de la croix. Donc, tout est par rapport à Jésus-Christ. Si vous voulez entendre parler de Jésus, ça donne bien. On va parler de Jésus, de sa croix triomphante et de sa vie abondante.
Amen.
C'est ça le plan. Et donc, le message d'aujourd'hui, si on retourne à nos moutons, abonde vraiment dans le sens de le fruit. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai souligné avant le temps de prière, Ésaïe 54, on est très perspicace ici à l'Église, vient tout de suite après Ésaïe 53. OK? Mais c'est vraiment plus pour souligner le fait que Ésaïe 53, les souffrances de Christ, la croix, puis on voit le fruit que cette souffrance de Christ-là porte dans Ésaïe 54. Tu vois que ça dit « Ouvre, tu sais, fais de l'espace, ta maison ne sera pas assez grande, tu vas tellement être fertile. » OK, c'est ça l'idée, c'est que la croix porte tout ce fruit. OK, vous comprenez l'image. Et donc, ça va ensemble. Et on peut dire aussi que c'est... Bon, c'est le fruit de la croix, mais on peut dire aussi que c'est la vie qui jaillit de la mort. La vie, Ésaïe 54, qui jaillit de la mort de Christ, Ésaïe 53. Ou, pour prendre le thème du mois de novembre, l'union du mariage, hein, de l'époux avec l'épouse, qui est produit par la séparation que le Fils a dû subir afin que nous, on puisse être unis avec le Dieu vivant. Il y a vraiment quelque chose là, c'est grand, c'est extraordinaire, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et ce que j'aimerais qu'on voit avec le message d'aujourd'hui, c'est trois fruits du mariage nouveau que nous avons avec Jésus-Christ. Et là, je m'adresse évidemment d'abord et avant tout aux enfants de Dieu, mais comme je l'ai dit, il y a assez d'évangiles de vérité rédemptrice dans notre texte pour que l'appel soit lancé à ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Mais regardons ensemble d'abord, dans les versets 1 à 4 qu'on a lus, la fertilité du mariage nouveau. Ici, on a vraiment l'image, là, il y a une femme qui était stérile, OK? Puis là, il dit, hey, tu dois être dans l'allégresse, tu dois te réjouir, puis agrandis ta tente, là, ton habitation, parce que tu vas te répandre, puis tu vas même faire des villes désertes, tu vas les remplir. Vraiment, c'est une image là, ici de la stérilité qui est terminée, puis c'est la fertilité qui prend place. Donc ici, d'abord, on a une loi spirituelle, mais aussi, c'est vrai dans le monde physique, que la vie reproduit la vie. Okay? Ça prend un être vivant pour reproduire un autre être vivant. Mais dans le domaine spirituel, ça nous amène à la vérité fondamentale qui est celle-ci. Dieu est la source de toute vie. Il est celui qui reproduit la vie. Il est la vie, et la vie ne vient et n'est reproduite que par lui. Et là, lorsqu'on comprend ça, puis il dit ici, au verset 1, il parle des fils de la délaissée. Et c'est important de comprendre ici l'arrière-plan, parce que historiquement, nous, quand on lit, surtout dans notre époque, c'est plus une vérité beaucoup vécue dans l'Occident. C'est encore vrai dans quand même des endroits sur la planète. Mais à l'époque, lorsque une femme était stérile, elle avait du rejet, de la honte, et même de la peur qui était reliée à sa condition, du fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir de suite. Et il y avait toute une opprobre qui était reliée à ça, vraiment. Et dans la société de l'époque, c'était une question d'identité et même de survie. Puis on a un exemple historique de ça qui est spécial. Je vais vous lire un beau call de gars. Tu sais, les gars, des fois, on dit des niaiseries. Là. Ben là, vous allez en entendre une belle, là. Elkanah, ça dit, dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 7 et 8, « Et toutes les années, il en était ainsi, il allait, c'est l'histoire d'Anne, là, la mère de Samuel. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Okay? Elle vivait cette opprobre du veuvage, mais de la stérilité, pardon. Elkanah, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? » Et là, voyez le call du siècle. « Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Wow! Bravo, Elkanah! Ça, c'est vraiment la bonne phrase à dire à ta femme. Aïe, aïe, aïe! Ça me fait... À deux fois que je dis ça, je dis « Wow! Ça, c'est vraiment... » Bravo, Elkanah! Mais c'est une illustration pour montrer que il y a deux éléments ici. Il y a l'opprobre, on la voit, elle est toute attristée, elle a vraiment honte, puis l'autre, elle pousse là-dessus, tu sais, elle fait exprès pour encore plus augmenter sa honte. Hein? T'as vu, hein? Moi j'ai des enfants, toi t'en as pas. Donc il y a cet élément d'opprobre qui vient avec l'infertilité, mais aussi l'impossibilité pour l'humain de produire la vie. C'est-à-dire, c'est des gens qui craignent l'Éternel, qui marchaient avec Dieu par la foi, mais ils ne pouvaient pas. Puis bon, on connaît la suite de l'histoire. Dieu s'est occupé de tout, mais justement, c'est qui a changé le cours des choses? C'est Dieu qui a donné un enfant et qui est devenu justement Samuel, le juge bien connu, qui même, il y a deux livres dans la Bible qui portent son nom. Et donc, il ne pouvait pas renier à ce problème, mais remédier, pardon, à ce problème. Et il y avait non seulement ici un problème, un stigma social, mais il y avait même une menace existentielle, parce qu'ici, on parle de la lignée messianique, de toutes les promesses qui étaient reliées à cette descendance. Et donc, il y avait une grande situation ici qui était plus que juste un petit drame familial, on peut dire, isolé dans l'histoire. Il y avait la suite des choses. Et là, ça nous aide à comprendre le contexte rédempteur d'Ésaïe 54. Parce que ça a 100% rapport avec la postérité physique et spirituelle d'Israël. Parce que oui, Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu, puis Dieu, hein, je veux dire, a travaillé à travers la nation d'Israël, puis tout ce qu'on a, les Écritures, Jésus, tout ça, vient d'Israël, les Juifs. Mais aussi une descendance spirituelle de Christ, et on va en parler dans un instant. Et c'est ça que je veux regarder pour appliquer ces vérités-là, parce que c'est ce que le Nouveau Testament fait. Et même, c'est sorti dans le temps de prière, mais si on regarde ces vérités de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau, ben Jésus est celui qui multiplie sa vie dans ses enfants et aussi par ses enfants. Et ça, on ne peut pas nous-mêmes le forcer, essayer de le produire nous-mêmes, parce que c'est le produit de la grâce de Dieu. Le salut vient de l'Éternel, la délivrance vient de l'Éternel, la vie vient de l'Éternel. C'est son œuvre, c'est son travail. Et donc, avec la thématique du mariage, le mariage à Jésus-Christ, pour un enfant de Dieu, c'est être uni à sa grâce. Et là, c'est important, c'est pas la performance, c'est pas les œuvres, c'est pas de nous, notre force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et ça, c'est la clé ici de la fertilité du nouveau mariage, c'est la grâce de Dieu, c'est sa vie. Parce que le résultat d'être uni avec Christ, ce que ça va produire, c'est sa vie. C'est sa grâce qui va produire plus de grâce. Et en passant, qui est la grâce de Dieu? Ça aussi, c'est personnifié. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », mais ça nous dit aussi dans Tite 2:11 que la grâce de Dieu a été manifestée. Et c'est qui? C'est Jésus. Jésus est la manifestation de Dieu, la manifestation du Dieu de toute grâce. Et à ce sujet-là, j'ai retenu un passage que vous connaissez peut-être dans Romains, chapitre 11, verset 6. « Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. C'est mutuellement exclusif. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Fait que tout ce qui est vivant, fructueux, toute la fertilité d'une vie chrétienne ne peut être que de Dieu, parce que Dieu est la source de toute vie, de toute grâce. Et donc, ça amène ce point-ci, ça nous contraint, on est obligé de dépendre de Dieu si on veut produire quelques fruits que ce soit. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais je ne sais pas si je suis coupable d'avoir déjà prêché là-dessus. Pas mal coupable des fois d'avoir prêché des affaires qui tiennent pas debout, je m'en rends compte après, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la grâce de Dieu, mais tu sais, le fameux tribunal de Christ, là, que ça dit qu'on va être jugé selon les œuvres qu'on a faites, et c'est vrai, c'est dans la Bible. Mais souvent, l'idée, c'est, là, il faut vraiment là, que tu fasses de quoi de bon, là, puis là, tu sais, c'est, on met, même souvent, c'est un bon passage pour mettre les gens sur une espèce de culpabilité, là, et il faut que je fasse plus, puis tout ça. Alors que tout le point, c'est quoi les œuvres qui vont, tu sais, parce qu'il y a des matériaux, là, flammables, non pas... Inflammable, ça, ça brûle. Puis ininflammable, ça brûle pas. On est du mêlant en français, hein? En tout cas. Le chaume, le bois, OK, ça brûle. Puis les pierres précieuses, l'or, ça passe au travers du feu. Bien, ces œuvres qui vont passer au travers du feu, là, c'est pas les œuvres de la plus grosse sincérité, puis vrai. Non, c'est les œuvres faites en lui. C'est la vie de Christ. C'est ce qui a comme source la grâce de Dieu. Ça, c'est du fruit qui demeure pour l'éternité. OK? Et c'est ça ce dont il est question ici. Tout ce qu'on va porter comme fruit qui va être éternel, qui va avoir une portée éternelle, ne peut être que d'origine divine. Dieu en étant l'initiateur, Dieu en étant la source. C'est pour ça qu'on est obligé de dépendre de lui si on va faire de quoi qui passe au travers du feu. Sinon, on peut être sincère, on peut donner toute la sueur de notre front à faire de quoi, mais ça va brûler si Dieu n'en est pas l'auteur, l'origine. Donc, je ne suis pas ici pour vous mettre sur un guilt trip en anglais, là, sur une culpabilité. Je suis ici pour vous dire, arrêtez d'essayer vous-même, dépendez du Dieu de toute grâce. C'est bien mieux. Vraiment, c'est bien moins fatigant, c'est bien plus glorieux. Parce que c'est à lui que vient la gloire. Puis c'est du fruit, c'est du vrai fruit. Parce que moi, j'ai essayé, là, puis mon fruit, là, comparé à celui de Dieu, non merci, j'aime pas mal mieux la grâce de Dieu. Et donc, ça, c'est le premier point, la fertilité du nouveau mariage. Mais aussi, il y a un deuxième point, j'aimerais qu'on voit dans les versets 5 à 8. La rédemption du nouveau mariage. Et on voit dans ces versets-là, on ne va pas tous les relire, mais au verset 5, ça dit « Car l'Éternel est ton époux, l'Éternel des armées, son nom est ton Rédempteur et le Saint d'Israël. » Puis aussi au verset 8, ça répète encore, à la fin, ça dit « Dis ton Rédempteur, l'Éternel. » Deux fois, Dieu réfère comme étant le Rédempteur d'Israël ici. Et ce langage, lorsque Dieu parle de rédemption, c'est un langage de restauration, de rachat de la relation qui était brisée, puis Dieu l'a ramené à un état d'unité, à un état vivant. Et pour le dire dans des mots variés qui vont nous aider à comprendre, là où il y avait de la division, Dieu a mis de l'union, de l'unité. Là où il y avait de la haine, il a mis de l'amour. Là où il y avait de l'indifférence, il a mis de la considération. Là où il y avait de l'injustice, il a mis sa justice. Là où il y avait de la honte, Dieu donne de la valeur. C'est ça l'idée de la rédemption. Et maintenant, nous sommes unis à Christ. C'est un des thèmes qu'on a eu, je ne me rappelle plus dans quel mois, mais ça nous dit dans 1 Corinthiens, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Okay, on est unis à Christ en un seul esprit. Ne savez-vous pas, ça c'était 1 Corinthiens 6, 17, puis maintenant écoutez versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, ça parle évidemment ici aux enfants de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés, ça c'est notre rédemption, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est ça la rédemption, c'est Dieu qui nous a rachetés, il nous a pris pour lui, il a restauré la relation avec lui, et ce, de façon fondamentale et profonde. Et évidemment, ça affecte toutes les autres relations. Quand on est racheté, quand on est rétabli dans notre relation avec Dieu, ça va avoir des effets sur toutes les autres relations que nous avons dans notre vie. Parce que la base de la relation avec Dieu, la relation avec Dieu est la base de toutes les autres relations. La relation rédemptrice dont nous jouissons fait des relations avec les autres, des relations rédemptrices aussi. La relation vivante qu'on a avec Dieu amène la vie dans les autres relations. Évidemment, ça dépend de nous, là. Ça dépend si on laisse la chair ou si on marche par l'esprit. Et ça m'amène justement à vous illustrer ceci par la citation de Genèse, chapitre 21, dans l'histoire ici avec Sarah et Agar. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté Abraham. Encore, voyez-vous, de la honte puis de l'opprobre. C'est un peu la même idée de ce qu'on a vu dans 1 Samuel. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Et on compare cela maintenant avec ce que Paul en dit, parce que ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais Paul prend ces vérités-là, là, dans Galates au chapitre 4, et voici ce qu'il en dit. « Dites-moi, vous qui vous voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, c'est les deux là, Ismaël et Isaac, un de la femme esclave, ça c'est Agar, et un de la femme libre, Sarah. Okay? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Okay? C'était pas un choix, il n'était pas dirigé par l'esprit, c'est le raisonnement humain. Okay? C'est, il avait agi par la chair, Abraham. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une, le mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Et c'est encore vrai en passant. Okay? Entre le moment Israël et Jérusalem est dans la servitude. Okay? Ils ne sont pas libérés, ils n'ont pas reconnu leur Messie. Okay? C'était vrai quand ça a été écrit, puis c'est encore vrai aujourd'hui, même avec la Jérusalem qui a été rebâtie après toutes ces années. Verset 26, « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. » Car il est écrit, « Réjouis-toi, » là c'est la citation qu'on a dans Ésaïe, « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. » Donc ici, on a vraiment, ça fait partie de l'histoire de la rédemption. Le Messie promis, comment il est venu, puis tout ça. Puis Paul reprend ça, puis il l'applique à l'actualité. Il l'applique pour nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, en ce moment. Et écoutez ce qu'il en conclut dans les versets 28 à 31, que je ne vous ai pas encore lu, mais dans le même chapitre, dans Galates, il dit, « Pour vous, frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui est né selon la chair persécutait, il riait, ok, c'est ça l'idée, là. Donc, persécutait celui qui est né selon l'Esprit, et ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. Ça nous parle de notre identité. On a été racheté à un grand prix. On n'est plus sous cette malédiction de l'esclavage. On n'est plus en Adam. On n'est plus rattaché à cette condition naturelle. On a été racheté. On est maintenant en Jésus-Christ et on est libre. On est des enfants de la promesse de la femme libre. Et c'est pour ça qu'il dit dans Galates, mais là au chapitre 5, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que l'idée c'est, hey, vous êtes des enfants qui ont été libérés, c'est votre identité, ben marchez comme des gens libres, marchez selon l'esprit, parce que vous êtes libérés par l'esprit, vous êtes, c'est votre identité. Puis il continue, puis c'est intéressant le verset d'après, parce que là je vous ai lu Galates 5:16, mais au verset 17 aussi, on peut lire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous l'esclavage de la loi, s'entend ici. Ici, c'est une promesse dans Galates 5 qui s'accomplit en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il nous a donné une nouvelle volonté. Ce qu'on voudrait faire naturellement, on ne le fait pas. On fait ce qui est de Dieu. Dieu nous a donné, en nous rachetant, il nous a aussi donné un nouveau cœur, des nouveaux désirs pour lui. Et c'est pour ça que la promesse de victoire, elle est là, parce que c'est par son esprit. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, Dieu est l'origine de ce qu'il a fait dans notre vie. Donc, quand on vit selon ce qu'il a fait de nous, on vit dans la liberté. Et là, ça nous rappelle l'importance vitale, capitale, de répondre par l'esprit aux tendances qu'on peut avoir de notre chair, aux manifestations de la chair et même des fois aux attaques de la chair dans notre propre cœur, puis peut-être aussi des fois ça arrive avec d'autres personnes. Parce qu'on ne vit pas sur une île déserte. On aimerait bien des fois ne pas avoir de problèmes relationnels, mais ça fait partie aussi du plan de Dieu. Dans les relations, au milieu des problèmes, Dieu opère cette rédemption. Et pour nous, pour la vie, il faut répondre par l'esprit. Des fois, je sonne comme un record brisé, comme on dit en bon québécois. Quand la chair répond à la chair, ça donne le fruit de la chair. Mais si la chair vous attaque personnellement, vous, dans votre cœur, ou la chair de quelqu'un d'autre, lorsqu'on répond par l'esprit, l'esprit vainque, l'esprit surmonte, et là, on vit la rédemption qui est en Christ. L'idée, c'est vraiment la réponse. Et c'est par la foi qu'on répond par l'esprit. Parce que des fois, on peut dire, « Ouais, mais là, tu es un peu comme des enfants, là. Ouais, mais là, c'est pas juste, c'est pas moi qui a commencé, puis c'est l'autre. » Des fois, on est plus subtil que ça. Mais pensez-y, pareil, notre chair, quand on réagit par la chair, c'est ça pareil, hein. « Ouais, mais j'ai bien le droit parce que l'autre m'a fait mal, puis c'est pas gentil. » C'est ça qu'on dit dans nos cœurs. Dans nos petits cœurs d'enfants, ça ne sort pas de même à l'extérieur parce qu'on aurait trop l'air enfantin. Mais c'est ça, la chair. La chair est immature. La chair, c'est l'esclavage. C'est, okay? Tandis que l'esprit, c'est supérieur. C'est la dépendance à Dieu. C'est Dieu qui nous amène dans les voies de sa parole et de ce que lui veut avec ça. La personne a agi par la chair. Et là, on répond par l'esprit d'une manière qui va désamorcer les choses, qui va amener sur un autre terrain. On sort du terrain du conflit, de la chair puis de la mort, puis on s'en va sur le terrain de la vie, de la réconciliation. Puis en passant, ça ne veut pas dire que si je réponds par l'esprit, que Dieu va tout faire, que l'autre, tout est correct, puis il va tout régler ses affaires. Petit point important. On fait ce qui nous appartient, notre réponse par la foi, puis il faut laisser à Dieu, parce que essayez pas de changer l'autre personne. Là, vous avez, ça, c'est par la chair qu'on fait ça. Là, on devient un irritant, puis on empire la situation. OK? On devient pas un facilitateur, on devient, comment qu'on dit ça? Un rempirateur. On rempire les choses.
Ça existe, moi?
Ah, je sais pas. Et donc, juste un dernier point là-dessus. Le choix qu'on a, là, on a parlé hier à la conférence, c'est le choix entre la mort et la vie. Parce que la chair répond dans le paradigme du bien puis du mal. Il m'a fait du mal, il faut que j'y fasse du mal. Il m'a fait du mal, c'est pas acceptable. Fait que là, OK? Puis on a raison quand on dit ça. OK? Comprenez que quand on réagit par la chair, c'est pas parce qu'on a tort. Ben, et là, il faut que je qualifie. On n'a pas tort d'une certaine façon, mais on a tort d'embarquer là-dedans. Parce qu'on peut dire, hey, la personne, elle m'a blessé, ça fait mal, puis c'est pas correct ce qu'elle fait, elle est égoïste, puis OK? On a raison là-dessus, probablement, là. OK? Mais des fois, même nous, quand on se regarde dans le miroir, je suis donc ben pas bon, pourri, puis OK? Puis on a raison de voir nos échecs, puis notre incrédulité, puis notre orgueil, OK? Fait que ça peut venir de différentes façons. Mais l'idée, c'est pas ça, c'est pas dire, j'ai raison, puis c'est ça, OK? Parce que là, on est dans le paradigme du bien puis du mal. Choisis la vie, comme dirait Moïse, c'est oui, il y a du tort, oui, il y a du mal, oui, c'est pas correct, mais en dépit de cela, je choisis Jésus, je choisis la vie, je choisis de me confier. Dieu, toi, t'es le surmonteur, the overcomer. Il y en a juste un surmonteur, overcomer, puis c'est Jésus. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est Jésus qui vit en toi si t'es un enfant de Dieu, puis si t'es pas un enfant de Dieu, il t'appelle à lui. C'est lui qui surmonte, c'est le seul. Jésus est notre victoire, il est notre paix, il est notre joie, il est notre tout en tous. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce point, mais pas pour tout le message. On est rendu au troisième point qui est très simple. Fait que non seulement il y a la fertilité du nouveau mariage, la rédemption du nouveau mariage, et maintenant la pérennité. C'est alors le point du mieux, j'aimerais savoir. Y a-t-il quelqu'un qui a un mot, un synonyme pour rédemption qui finit en « et » Parce que, tu sais, ça aurait fait trois « et », là. Mais c'est pas bien grave, là. On appelle ça de l'allitération, là, mais... La pérennité. La pérennité du nouveau mariage. On a ça, les versets qui ont été cités à plusieurs reprises. J'aimerais qu'on les relise de façon tellement beau, versets 9 et 10. « Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. » Beaucoup de bagages historiques, hein, dans notre passage aujourd'hui. « J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de ne plus mériter contre toi, de ne plus te menacer. » Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Ces versets mettent en lumière deux attributs majeurs et fondamentaux du caractère de Dieu. Sa fidélité, hein, quand il parle de Moïse, puis tout ça, puis regarde, j'ai fait l'arc dans la nuit pour dire que je ne vais pas détruire la terre par l'eau comme je l'ai fait, ben de même, je suis fidèle à ce que j'ai dit, je ne vais pas t'abandonner. Okay? Dieu est fidèle à ce qu'il a dit à Israël ici. Puis aussi, on voit son amour, évidemment, au verset 10, hein, avec cette image de tout qui s'ébranle, mais son amour, Dieu ne change pas, ne s'ébranle pas. Donc, deux caractères vraiment forts, la fidélité de Dieu qui est infaillible et son amour qui est la sécurité de notre relation avec lui. Hier, on l'a vu, hein, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que le monde change, peut-être que nos relations, des fois, ont des hauts puis des bas, mais l'amour de Dieu en Jésus-Christ ne change pas. Et les deux éléments, la fidélité de Dieu et son amour, nous procurent paix et repos dans notre relation avec lui. Et je dirais spécialement dans les hauts et les bas de la vie, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des épreuves, il y a des temps de bénédiction, il y a des temps plus difficiles. Mais lorsqu'on s'accroche à ça, Dieu est fidèle et il nous aime. C'est des ancrages sûrs et solides sur lesquels reposer nos vies. C'est le roc de la personne de Dieu. Et juste là-dessus, une illustration bien simple. Vous savez, c'est reconnu même dans le monde non chrétien que le fait d'avoir été élevé dans une famille stable, avec un couple stable, va produire plus tard, va augmenter beaucoup les chances d'avoir des relations stables par la suite. C'est un fait de la vie, ça va donner ce fruit-là dans le futur. Pourquoi? Parce que lorsque dans un couple, dans une famille, il y a cette fidélité et cet amour qui est là, il y a une sécurité qui s'installe avec. Et là, ça nous permet de nous investir ailleurs. On n'est plus en mode survie pour dire, ben là, j'ai tellement d'affaires à dealer avec, j'ai pas le temps de m'occuper de d'autres choses. Puis pensez à ça, c'est vrai, là, quand il y a cette fidélité, cet amour qui est là, ça nous donne une liberté pour pouvoir aller après ça, s'investir ailleurs. Et ça, c'est tellement vrai. Je vous dis, fait vécu, là. Tu sais, vous savez, je fais du ministère au pénitencier de Donnacona. Puis, en fait, j'ai réfléchi à ça l'autre jour. Puis, vous savez, le sens premier, je crois, ce que j'offre. Évidemment, c'est Christ que j'offre. OK, moi, je suis chrétien, puis c'est Jésus que je leur offre. Mais même, il y a d'autres aumôniers, il y en a qui ne sont pas sauvés, il y en a qui le sont. Mais juste le service d'aumônerie en tant que tel, puis là, OK, vous comprenez, là, je pense que les seuls aumôniers qui sont efficaces, c'est ceux qui offrent Jésus, là, OK? Mais même juste le fait d'offrir une relation stable, ça va loin. Mais en plus, imaginez-vous quand cette relation est rédemptrice, quand Jésus est mis au centre de cette relation, souvent, ces gens-là n'ont jamais eu ça de leur vie. Relation stable, puis encore moins rédemptrice. Et ça offre aux prisonniers quelque chose, non seulement à voir, hein, ça se peut, mais aussi à croire, hein? Il y a un Dieu qui se soucie de moi, puis qui a envoyé cette personne-là, puis, OK? Et ça, mes amis, ça va loin parce que c'est ça toute l'idée de la pérennité de notre relation avec Dieu, de notre union avec lui, le mariage à Christ. C'est Dieu qui, dans sa fidélité et son amour, nous donne une stabilité pour qu'on puisse justement s'investir après ça aux choses que lui nous appelle à faire. Puis là-dessus, je vais amener quelque chose d'important. La fameuse charrue devant les bœufs, OK? Parce que qu'est-ce que souvent on peut voir dans le milieu chrétien en général, c'est qu'il y a une phrase, qui a parlé de ça, des pep talks? C'est-tu Benoît ou c'était Éric? En tout cas, c'est les pep talks. Tu sais que le dimanche matin, c'est un pep talk et tout ça, puis on prend l'idée, mais ça ne nourrit pas pour toute la semaine. Puis son point, justement, il décriait ça, Benoît. Il disait qu'on a besoin d'être nourri dans nos cœurs, tout ça, puis d'être nourri des paroles de vie. Puis ça, pour un pep talk qu'on pourrait avoir dans une entreprise par rapport à, je ne sais pas, avoir des meilleurs rendements. Donc, on est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. Okay? Mais juste un point par rapport à ce dont on parle ici sur la pérennité et la fidélité, puis l'amour, puis la stabilité, c'est que lorsque le peuple de Dieu est fondé puis enraciné dans la personne de Dieu, puis spécialement sa fidélité, son amour, et Dieu ne va pas nous abandonner parce qu'il nous aime. Puis lorsqu'on est fondé là-dessus, là, puis là qu'on n'a pas juste deux puis trois, mais là qu'on peut dire, « Wow, notre Église, c'est ça sur quoi on est assis. » Ok? Ça va produire une Église. Ça va donner une église qui produit du fruit. Mais souvent, on met la charrue avant les bœufs. Hey, let's go, il faut se forcer pour le Seigneur, puis il faut donner, puis il faut faire ça. Puis... Mais si on n'est pas fondé, ça peut durer pour un bout. Je pense que c'est John Dennerin qui disait que la chair a de la motivation pour à peu près 7 ans.
C'est un homme d'expérience dans son observation. Puis, il n'est pas né de la dernière fois. Il a grandi dans une famille chrétienne. Je pense que son père était pasteur, John Dengarvin. Il en a vu pas mal les chrétiens, puis mieux les chrétiens. Puis il dit, en gros, là, tu sais, la chair qui se motive de même, à peu près 7 ans après ça, s'épuise, passe un autre appel, ou, tu sais, pas seulement avant toute la foi, mais il va laisser cet effort-là d'avoir donné, OK? Mais ça, c'est parce que le point de départ n'est pas là. Lorsque tu t'ancres dans une relation rédemptrice avec Christ, point de départ, le salut, puis ensuite, en tant qu'enfant de Dieu, être sécure dans la fidélité de Dieu puis son amour, après ça, tu peux t'investir. Parce que là, tu pars d'un point de stabilité, puis là, tu peux vraiment porter du fruit. Amen. Ça aussi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet.
Puis on arrive à la conclusion. Oh, j'aimerais dire avec vous autres, les versets 15 et 16. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. On vit dans un monde, dans un univers de complots. Vous savez que les chrétiens sont les originales complotistes. Et là, je le dis sans honte, on croit qu'il y a un Dieu, qu'il y a un ennemi de Dieu et du peuple de Dieu, c'est Satan, puis que le monde entier sous la puissance du malin. Si ça, ça ne ressemble pas à du complot, je ne sais pas c'est quoi. OK? Puis, on ne se met pas des tinfoil hats, tu sais, mais c'est parce que le monde veut ridiculiser, mais l'idée, c'est qu'on reconnaît qu'il y a une vérité au-delà de ce que nos yeux voient. Il y a une réalité spirituelle. On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances spirituelles dans les lieux célestes, OK? Et donc, on vit dans un monde, puis oui, il y a aussi le côté humain, là, parce que je pense que même, tu sais, la politique, c'est un lieu de... Il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de mafia, puis c'est tous des bons garçons, des bonnes petites filles, le monde est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis les licornes s'envolent au vent. Non, évidemment, on sait, bon, mais on vit dans un monde de complot, ça parle ici de complot, fait que mettez ça à toutes les sauces. Il y a une opposition spirituelle au fait d'être uni à Christ, d'être attaché à lui, et cette opposition, elle est réelle, elle est féroce, mais voici avec qui je veux terminer. Avec celui qui dit au verset 17, « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, autrement dit, tous ces éléments de complot qui peuvent s'élever contre nous autres, tu les condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. » C'est avec lui que je veux finir. Dit l'Éternel. Pourquoi on met nos yeux sur les complots et tout ce qui peut aller mal? Oui, de mettre nos yeux sur celui qui dit, il n'y a rien de ça qui va m'arrêter dans mon plan, puis dans mon amour, puis ma fidélité pour toi. Rien. Toutes les armes forgées contre toi, puis Dieu ici admet qu'il y a ça, puis que le peuple de Dieu, comment a été caractérisé à travers Ancien et Nouveau Testament, attaques spirituelles, toutes sortes de complots, puis lisez le livre d'Esther, c'est pas mal complotiste comme livre, mais Dieu a toujours été vainqueur, Dieu a toujours remporté, parce que c'est lui le rédempteur, puis c'est lui ici qui dit, c'est moi qui va, j'ai un héritage pour moi, puis le salut vient de moi. Et donc, c'est avec ça que je lance l'appel. Tu sais, quand on parle des complots, là, on peut parler de l'idée de la mort, des complots pour amener, c'est ça, la mort et la destruction. Puis les idoles, dans le verset 7, bien, c'est tout ce qui est mensonger. Ah, une idole, ça promet beaucoup, mais ça donne rien. OK? Donc, quand on parle de mort puis de mensonge, on pense à qui? Satan, qui est le père du mensonge puis qui est meurtrier dès le commencement. OK? Fait qu'on est dans ce domaine-là. Mais Dieu est le destructeur de tout ça. C'est lui qui brise. Puis toute âme qui se forge de même, c'est Dieu qui brise. Moi, j'aime l'image de Dieu comme étant le destructeur, celui qui brise. Parce qu'on est dans un monde où est-ce qu'il y a des menaces, puis Dieu dit, moi, je peux tout briser ça. Même que ça dit que Dieu va prendre tous ceux qui s'opposent, puis il voulait briser comme le vase du potier. Et donc, c'est avec ça que je veux lancer l'appel. Confie-toi, reçois le Dieu vivant qui se présente à toi ce matin comme celui qui est le seul qui peut briser les complots de celui qui est l'ennemi de ton âme. Si tu es ici et tu n'es pas sauvé, tu fais la joie de Satan parce que tu te plies à sa volonté. en résistant à l'appel de Dieu qui t'appelle à lui pour être réconcilié, t'obéis à Satan. Vous avez souvent eu un appel de même, mais c'est la réalité. Satan, c'est le prince de ce monde, puis il veut faire apparaître Dieu comme s'il n'est pas suffisant, puis il ne sauve pas vraiment, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est lui. Puis évidemment, vous avez votre décision, vous avez votre propre libre arbitre, mais Satan veut accentuer ça. Parce qu'il est meurtrier, il est menteur. Il veut vous laisser dans la mort pour pas que vous alliez au prince de la vie, puis il veut vous faire croire que c'est pas vraiment suffisant ou bon ou ce que ça prend d'avoir Dieu. Ça, c'est l'ultime des mensonges, parce que Dieu est la vérité, puis si on a Dieu, on a absolument tout ce dont on a besoin, quand même qu'on perdrait tout ce qu'il y a sur la terre. Si on a Dieu, on est les plus riches, on a le plus grand des trésors. Et donc, c'est mon appel. Venez à ce Dieu qui vous appelle à lui, parce que tant qu'il y a des idoles dans votre cœur qui vous gardent de venir à Dieu, des idoles de mensonges qui vous amènent à penser que « Ah, mais là, je vais délaisser ça, puis tout ça. » Vous savez, si je m'en vais dans le Vieux-Québec, puis je vois quelqu'un qui est en train de fouiller dans les poubelles, puis que j'ai dit « Hey, je t'invite. » Il n'y a pas de Ritz-Carlton au Québec, là, je ne sais pas, à Québec. C'est quoi le plus beau restaurant à Québec, là? Je t'invite au Château Frontenac. Puis il dit « Hey, non, j'ai des bonnes poubelles ici, j'ai trouvé un burger. » La moitié n'est pas mangée. Ça vous fait rire parce que c'est ridicule. Ben c'est ça. Dieu qui nous invite à lui puis qu'on veut rester attaché à nos idoles, à nos choses d'ici-bas, c'est dire « Hey, j'ai une moitié de burger qui n'a pas été mangé dans la poubelle » alors que lui-même nous convie au Château Frontenac. Puis encore là, c'est pour l'illustration, mais mettez Château Frontenac fois 1 million, là. OK? Et c'est ça l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à lui. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, Dieu ne veut pas juste vous donner un ticket pour le ciel, il veut devenir votre Dieu, votre Rédempteur, votre vie, absolument tout ce dont vous avez besoin. Bien, les enfants de Dieu, cette belle promesse qu'on voit ici, là, notre héritage, verset 17, c'est la promesse qu'on a, c'est pour nous, les enfants de Dieu, spécifiquement, qu'on console, qu'on réconforte notre cœur et notre âme avec ces vérités, que Dieu lui-même est avec nous. Que toute arme forgée contre nous autres n'a pas d'effet. Toute langue qui s'élève en justice, on les condamne à cause que c'est notre héritage. Puis c'est Dieu, tel est le salut, la délivrance qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quel beau passage, comme c'est merveilleux qu'on puisse prendre pleinement ce que Dieu avait pour nous avec ça aujourd'hui. Merci Seigneur. Oui, tu es le Dieu qui nous a donné ce matin de ta riche main et on te bénit, on te remercie pour ça. On ne veut pas que ça tombe en vain, que les bonnes paroles que tu nous as données que ne tombent pas à terre sans avoir fait leur effet, Seigneur. Donc, on prend par la foi ce que tu as pour nous et je te prie que s'il y en a ici qui sont encore en dehors de ton troupeau, du peuple racheté de l'Éternel, qu'ils voient que c'est toi qui les appelles en ce moment, qui les appelle à toi, qui les appelle à la délivrance, à la vraie vie, à la terre promise de toutes tes plus grandes et plus précieuses promesses. Seigneur, qu'ils te voient, toi, sur la croix du calvaire, agonisant pour eux, et maintenant vivant, triomphant, pour être réconciliés une fois pour toutes par le sang de la croix. Et pour nous qui sommes tes enfants, on veut vivre à la lumière de ces glorieuses vérités, de la pleine victoire qui est en Jésus. Seigneur, on te demande toutes ces choses en son nom merveilleux. Amen.